Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'Infinity Ward, un musée pour le jeu vidéo, la PS3 qui bug le com des coms, Nintendo avec l'arrivée de la DSi XL et puis des nouvelles pour le line-up de ce début d'année. Heavy Rain, enfin, parce que c'est quand même, hein, depuis le temps, on va en parler, évidemment, on y a joué. Monsieur Fall, comme chaque semaine de TrickTrack.net, pas de minute culturelle, il va falloir voir les choses avec le responsable de cette émission, ça va plus du tout, hein. Je pense que il y a des chose, il y a une dérive inacceptable. On continuera sur Heavy Rain parce qu'il y a à en dire quand même, et ce sera tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, mais je reçois mes deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap. Bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Clément, avec des gens qui se font virer Manu Militari.
Chez Infinity Ward. Alors Infinity Ward, pour resituer, c'est les développeurs quand même talentueux, hein, des Call of Duty,
oui.
Mais pas de tous, des bons.
Non, c'est voilà. Dire des pairs.
C'est des pairs, ouais. Enfin, voilà. Du 1 en tout cas, c'est sûr.
Ah non, des 1 pair, alors. Je ne sais plus.
Du 2 enfin, bon, aussi.
De,
en tout cas,
sur
de Modern Warfare. Et en fait, ce qui s'est passé, donc c'est assez étonnant, parce qu'en plus, c'est un étonnant que ça arrive et deux que ça arrive sur la place publique. Ce qui s'est passé, c'est que les deux cofondateurs d'Infinity Ward, les deux patrons, Jason West et Vince Zampella, ont été licenciés. Et ils ont été licenciés pour insubordination et rupture de contrat. Alors
ah oui quand même
voilà donc c'est
j'aime
c'est...
bien le insubordination quand même
voilà c'est surtout ça
Activision. Alors, c'est un peu une bande de potes pourtant, enfin c'est très beatnik comme boîte
disons que ça aide pas la réputation d'Activision qui a été un peu entachée ces derniers temps, notamment par les discours de son patron qui voulait enlever le fun des jeux vidéo, enfin dans la conception des jeux vidéo. Alors, ce qui s'est passé, on ne sait pas exactement, parce qu'évidemment, Activision a fait un peu effet de langue de bois. Mais d'après ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, Infinity Ward voulait développer un autre jeu qu'un Call of Duty. Ils en avaient un peu marre de faire un peu la même chose, d'un Modern Warfare. Mais c'était les seuls, par contrat, à pouvoir faire un jeu Modern Warfare.
D'accord.
Voilà, donc ils ont préféré... donc c'est les rumeurs les plus probables. Et donc ils ont préféré licencier du coup les patrons pour qu'après ils rentrent un peu dans le rang
et pour continuer à faire des Modern Warfare.
Parce qu'effectivement c'est une Call of Duty et Modern Warfare, donc qui sont un peu la même IP, c'est une référence en fait, et en tout cas c'est une poule aux œufs d'or.
C'est une cash machine
pour Activision, et ils pouvaient pas s'en passer.
Et d'ailleurs donc, en fait ça rappelle un petit peu comme quoi il y a certains studios qui se fatiguent un peu d'être dans des styles de jeu
jeux et même sur des marques à succès. Ça rappelle, il y avait eu cette histoire avec Bungie à un moment qui s'était un petit peu rebellé contre, qui voulait plus
entre
faire
autres,
de Halo,
entre autres, tout à fait. Mais aussi, il faut voir ce qui est assez rigolo, c'est que Infinity Ward à la base, c'est des anciens de 2015. Des anciens donc qui avaient fait Medal of Honor chez Electronic Arts.
Oui, donc ouais. Là, ce sont des personnes qui étaient à la base.
À la base. Et donc l'histoire se répète. Et peut-être qu'on va voir, comme le souligne Naufrag, peut-être qu'on va voir effectivement une vague de démissions.
Et que les gens vont partir d'Infinity Wars et remonter une nouvelle boîte. Et vu que c'est à peu près les seuls qui savent faire ils savent faire des bons jeux.
Voilà donc à suivre.
Et puis Activision les rachètera après encore plus
probablement.
Patrick, tu es content? À partir du 14 avril, tu vas pouvoir ton musée à toi.
Exactement. On va parler un petit peu de rétro gaming. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler dans cette émission. Donc,
allez, plains-toi, allez.
Donc ouais, moi j'ai noté pour cette semaine l'annonce de l'ouverture du premier musée du jeu vidéo en France, qui serait donc à première vue, qui serait physiquement toujours posé au même endroit en fait, qui va s'imposer comme
c'est-à-dire où ça
qui va
sur le toit de l'Arche de la Défense.
Exactement. Et en fait, il va rejoindre un musée qu'on avait déjà, enfin moi que j'avais déjà visité à l'époque, qui était le musée de l'informatique professionnelle.
Ouais.
Qui a été, je crois que c'est installé il y a 3 ans
c'est
maintenant.
C'est super sexy quand même.
Ouais, mais c'est intéressant.
Ouais. Il y a des belles bécanes à voir, etc. Mais là, on passe du côté du jeu vidéo. Donc ça va être organisé par le toit de la Grande Arche de la Défense et Alerte Orange, qui reprend en fait plus ou moins la formule d'une exposition qui s'appelait Retro Gaming 30 ans de jeux vidéo qui avait été mis en place, je crois, l'été dernier. Et voilà, donc ce salon va ouvrir le 14 avril prochain. Et d'après le communiqué, on nous annonce qu'il y aurait 200 pièces différentes qui permettraient de retracer l'histoire du jeu vidéo via les machines les plus emblématiques.
C'est un musée permanent, non ?
Alors oui, c'est un musée
permanent. C'est ce que j'essayais de dire.
Ce n'est pas une simple exposition permanente du musée de l'informatique. C'est un musée en tant que tel. Et après, reste à voir si c'est pas juste une formule, hein, parce que
après, on va voir.
Alors 200 pièces, ça peut paraître un petit peu léger.
Hein, exactement. Après, on va voir. Il y a aussi donc le communiqué annonce aussi des portraits de créateurs de jeux et d'icônes de la game culture. Voilà. Donc
voilà. Alors il y a ce côté a priori icône. Icône, c'est Mario, Sonic, etc. Et puis en fait sur les créateurs. Alors il y aura les créateurs français. Mm-hmm. A priori, en fait, la seule question, et c'est une question d'importance, c'est qu'ils ne savent pas encore s'il y aura des consoles jouables.
Et oui, c'est une grande question sur ces.
Franchement,
sur ces bécanes,
un musée du jeu vidéo où tu fais que regarder des machines, voir et regarder des écrans sans pouvoir vraiment interagir. Ouais. Il parle juste, a priori, ça s'est confirmé, de tables interactives pour manipuler. Ouais.
Ou de machines qui marchent, ou qui sont émulées, peut-être des choses comme ça.
Mais
si on n'a
pas la manette en main,
en même temps, c'est vrai que c'est une vraie problématique, c'est voilà, de mettre en scène des consoles comme la Vectrex ou d'autres qui ont maintenant quelques décennies, qui sont plutôt fragiles, et les faire tourner ça, pendant la journée.
C'est le challenge.
Des questions techniques.
Si tu veux ouvrir un musée du jeu vidéo, il y a du jeu vidéo.
Pourquoi pas faire tourner les machines jouables, etc. Donc c'est une vraie question. En tout cas, on ira voir le 14 avril donc ce musée du jeu vidéo, donc qui prendra place juste à côté du musée déjà existant.
Sur les toits de l'Arche de la Défense.
De l'informatique.
Ouais, ouais.
Voilà.
Alors moi, c'était lundi, le drame. Chose assez inattendue quand même. On allume sa PlayStation 3 et puis rien, ça bug. Enfin non, si, écran. Enfin,
oui,
page d'accueil. On lance le jeu qu'on doit tester pour le Silence on Joue de la semaine parce qu'on est professionnel. Oui, monsieur. donc on lance Eviren et là, erreur 850-10 à peu près, je dois pas me tromper.
Il y avait plus
beaucoup
de chiffres que ça, je crois.
Ouais, et donc ça ne tourne plus, et ça c'était le cas pour la plupart de ce qu'on appelle les PS3 fat.
Les premières, les grosses, oui.
Les grosses PS3.
Certaines séries, en fait les toutes premières consoles visiblement.
Ouais, mais
un grand volume de machines.
Un gros paquet de machines. Et donc un peu la panique, parce que c'est vrai que ça a été mondial.
C'est donc un bug lié en fait au passage du février à mars.
Ah oui, non, là ça m'a fait un peu hurler de rire. On pense à un truc de grave au début, franchement, une console qui se plante, toutes les consoles dans le monde, enfin c'est une attaque bioterroriste, enfin c'est un truc comme ça, et finalement non, c'est le passage du 28 février au 1er mars, sans passer par le 29 qui a posé problème. C'est un peu dommage de croire en 2010 que 2010 est une année bissextile.
C'est assez rigolo puisque c'était déjà arrivé à Microsoft, mais sur les unes, vous savez, ce baladeur
jamais sorti en Europe.
Voilà.
Et, en France, en tout cas.
En France, en tout cas. Et c'était assez rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas vraiment le terme. C'est qu'en fait, ça avait aussi planté pour la même raison, pour l'algorithme du passage de février à mars. Et c'était planté donc, durement. Souci, fallait vraiment renvoyer le Zune au constructeur.
Ouais. Mais alors, pour les quelques-uns d'entre nous qui ont fait des petites études en informatique, hein, c'est quand même le passage aux années bisextiles. C'est
le béaba, c'est ça, non?
En fait, c'est un peu ce que t'apprends après avoir fait Go2this, Hello World, tu apprends les années bisextiles, quoi.
Le souci, c'est que même quand on n'était pas connecté, je crois, au PSN, on avait ce plantage aussi, en fait. C'est ce qui est un peu, c'est ce qui a fait que.
Oui, parce que c'était lié,
sans être connecté, la bécane.
Moi, je me suis déconnecté pour le lancer parce que j'étais au courant qu'il y avait ce bug. Ouais. Et même comme ça, t'as pas pu. Non, ça a pas marché. Mais bon, par contre, c'est à minuit 40, le 2 mars.
Ça a été vite réglé, quand même.
Ça a été réglé. Il fallait juste re-régler l'heure manuellement. Mais
c'est vrai qu'il y a eu sur les forums beaucoup de discussions.
C'est bien joué. Bien joué. En tout cas, bon, c'est réparé. C'est pas trop mal. Après, il y a pas grand chose à en dire. À part ça. Le com des coms de la semaine dernière, alors ça m'arrive pourtant rarement, j'ai été dans l'approximation, et oui, encore une fois, c'est sur les coûts de traduction, j'ai été un peu remis à ma place parce que j'avais évoqué quelques milliers d'euros pour traduire Phoenix Wright, nous avons des auditeurs qui sont en traduction, donc là, voilà, il faut pas faire les approximations. Donc il y a MKB, j'ai un peu sursauté en entendant le coût fantasmé de la traduction. Concernant les coûts de trad pure, les tarifs sont compris entre 0,11 et 0,13 euros le mot, mais ils ont tendance à baisser, j'avais entreaperçu un Ace Attorney, il me semble que cela doit faire un peu plus que les 40 000 mots que vous sous-entendez, parce que j'avais parlé de 4 000 euros de budget. Il fait tout le calcul. Alors voilà, MKB fait tout le calcul. Pour Ace Attorney, en se basant sur 40 heures de gameplay que vous avez spéculé, cela ferait une première approximation de 8 000 euros pour la trad, plus 5 jours de gameplay fois 6. Alors bon, il détaille, ce qui fait 17 000 euros. Donc on est plus dans les 20 000 euros, ce qui n'empêche pas quand même qu'entre le Québec, la France, tous les pays francophones, etc.
Ça se justifie en général.
Faire un investissement minimum parce que sortir un jeu. Et alors, Goog, qui est aussi traducteur, non, pas qu'un, en tant que traducteur et ex-chef de projet localisation, je peux vous confirmer que ça tourne en effet autour de plusieurs milliers jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la localisation d'un jeu DS. Plus il y a de mots, plus ce sera cher. Et les jeux d'aventure, c'est plein de mots. Donc, traduire un Ace Attorney, sachant qu'il n'y a pas la traduction des voix. Mais bref. Autre réaction concernant StarCraft 2 dont nous avons fait, dont Clément nous a parlé de la bêta. Il y a Véry qui dit bonjour à tous, je suis assez déçu par votre intervention concernant StarCraft 2, mais je peux comprendre votre position. Il est difficile de comprendre les enjeux de ce titre sans être vraiment passionné des jeux compétitifs en ligne avec mes mêmes. Alors, il a fait un long post, hein. Il a expliqué pourquoi c'est important StarCraft 2, quels sont les enjeux.
Que j'ai lu.
Alors, c'est vrai qu'il a une vision très sport électronique, hein. Donc, c'est vrai que si l'ambition de StarCraft c'est de faire un sport électronique, c'est vrai que dans le sport on réinvente pas le foot à chaque Coupe du Monde, donc il faut bien que il y a des règles très très précises. Il conclut, c'est pour toutes ces promesses que ce jeu suscite autant d'attentes dans la communauté e-sport. J'espère que je vous aurai un peu éclairé de ce titre, que vous comprenez déjà mieux pourquoi Blizzard préfère se baser sur un gameplay qui a déjà fait ses preuves. Je pense que les enjeux de ce titre se trouvent à un autre niveau. Voilà. Et en fait, il réclame une clé, hein, donc si vous avez une clé en trop. Moi, je garde la mienne. Brainkite, qui est aussi un peu sur... C'est marrant parce que pour moi, l'univers de StarCraft était tellement riche dans mon fort intérieur que j'en avais pas grand-chose à faire, qui ne change pas grand-chose. Rien que le fait que ce soit une sorte d'add-on HD du premier StarCraft me suffit à ressentir un énorme need en mon fort intérieur. Je suis pas difficile quand ça touche aux sentiments. C'est vrai que Blizzard s'est un peu basé sur cette attitude de fan qui adore StarCraft et qui a envie d'y rejouer. Voilà. Super Mario Galaxy 2, c'est une première. On reprend un Mario, on fait la suite avec le même univers, les gameplays identiques, etc. Mais ça sort peut-être un peu plus vite que prévu, car c'est avant juin.
Et ben ce sera en juin en fait.
Voilà, ce sera en juin.
La confirmation. C'est pour ça que j'ai pas pu me joindre à vous la semaine dernière. J'étais parti avec Nintendo à Londres en fait pour l'événement European Media Summit, Nintendo a annoncé les dates de lancement de ses principaux jeux à venir, et puis il nous a surtout permis de jouer à ces jeux pendant une journée et de pouvoir prendre en main Mario Galaxy 2, Metroid Over M, donc le nouveau sur Wii, et puis d'autres
alors,
jeux.
Alors les premières impressions.
Alors on n'a pas eu d'annonce fracassante pendant l'événement. On a une courte conférence de presse.
Pas la DS2, donc on avait peut-être supposé qu'ils allaient en parler, mais
c'était pas du tout à l'ordre du jour.
La rumeur.
On a eu une conférence de presse assez courte. On a vraiment senti que l'idée c'était de dire voilà, on vous donne le planning de sortie. Il y a des jeux qui vont sortir plus tôt que prévu, plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer, et donc la possibilité de pour nous de prendre les jeux en main. Là, on va dire que la surprise c'était quand même la date de sortie donc de Super Mario Galaxy 2 qui est donc à juin, alors qu'on pouvait, on estimait plutôt une fin d'année. On voyait plutôt le Mario de fin d'année il va arriver en juin. On a eu des confirmations comme Monster Hunter 3, le jeu donc de Capcom sur Wii qui arrivera fin avril. Et donc le Metroid Over M qui est développé cette fois par avec Team Ninja. Mm-hmm. Ninja Gaiden pour
ceux qui connaissent
qui lui arrivera au troisième
Dead or
trimestre
Alive aussi, c'est eux. Dead or Alive c'est eux Team Ninja hein, je crois
et donc Metroid Over M donc arrivera au troisième trimestre sur Wii aussi,
donc Samu aura des gros seins.
Non, en tout cas, voilà,
normalement, ça va avec un Team Ninja, ils savent faire que ça.
C'est ça, elle est féminine.
Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant de leur côté, c'est qu'ils ont vraiment, là, on sent qu'il y a une remise un peu à plat de Metroid. C'est vrai qu'il y a eu, c'est une série qui a un peu écumé toutes les consoles Nintendo, qui a eu une très bonne, je crois, trilogie sur GameCube et sur Wii dernièrement. Là, on sent qu'il y a vraiment une remise à plat. Le gameplay a été revu. On a pu jouer 20 minutes au jeu.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé super immersif. On a l'impression qu'il est beaucoup plus scénarisé qu'autrefois. Et surtout, il a un gameplay assez original. En fait, il est en vue de côté plutôt un peu à l'ancienne. Moi, il m'a fait penser un peu à Shadow Complex sur le côté vu comme ça en latéral. Et donc, on joue avec la manette, le Wiimote à l'horizontale, un peu à la mode classique, etc. Et dès qu'on veut viser, passer en vue subjective, hop, on pointe la Wiimote vers l'écran et on passe en vue subjective. Pendant la démo, on a aussi vu que la caméra pouvait passer en troisième personne, un peu à la Resident Evil 4. Ça, on l'a vu pendant un tout petit instant pendant le jeu, mais on a senti qu'il y avait cette caméra aussi qui pouvait apparaître dans le jeu.
Et c'est sorti quand, tu l'as dit, mais j'ai...
Alors c'est troisième trimestre 2010.
D'accord.
Au niveau du scénario,
apparemment, c'est un gros titre.
Juste après la fin de Super Metroid sur Super NES.
Ouais, ah oui,
la cinématique d'intro, c'est la fin de Super Metroid, donc pour les fans, c'est vraiment du pain béni. Et voilà, en tout cas, la première prise en main est vraiment excellente. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un côté à la fois rétro, revenir un peu aux essentiels de Metroid, aux fondamentaux, exactement.
En même temps, tu parles de Shadow Complex, ça me donne envie, déjà.
Mais oui, enfin, c'est pas forcément le jeu qui vient forcément en tête, mais moi, dans le ressenti de gameplay, en le prenant en main, ça a été ça. C'était le côté plateforme efficace, rapide, speed. Et en tout cas, voilà, très bon premier contact. Et puis Super Mario Galaxy 2, évidemment, c'était le jeu. Moi, j'ai passé pas mal de temps dessus. Assez proche du premier, hein. C'est pas une révolution au niveau technique, graphiquement c'est le même moteur, etc. Mais on plonge, évidemment on plonge, parce qu'il y a quelques nouveautés. Il y a Yoshi qui apparaît, donc ça ouvre évidemment. ça ouvre des nouvelles perspectives. On peut l'utiliser évidemment pour accéder,
attraper des choses,
etc. Ouais, attraper les ennemis. Ouais. On a une foreuse aussi qu'on peut utiliser
maintenant.
J'ai
vu les images,
pour passer,
pas mal,
pour traverser les planètes. Enfin, on sent voilà que le jeu il est assez proche du premier, mais
en
qu'on
même
va
temps, le premier
enfin,
était bon,
il était déjà énorme, et on sent que voilà que celui-là va être pareil. Et pareil. Enfin, moi, c'est mes deux vraiment des jeux, les deux jeux qui m'ont accroché. J'ai bien aussi aimé Sign and Punishment, qui est une suite d'un jeu Nintendo 64 qui n'était pas sorti en Europe, qui était uniquement sorti, je crois, au Japon. Un bon shoot, un peu old school, et qui est vraiment super, super speed, bien dynamique.
Mais pourquoi celui-là?
C'est Sign, comme le Sign PC?
Non, c'était un shoot Nintendo 64. Je crois qu'il est disponible sur Virtual Console.
D'accord.
Et qui donc là arrive sur Wii.
Un shoot.
C'est un shoot. C'est un shoot vraiment à l'ancienne, c'est du jeu d'arcade pur et dur.
D'accord.
Ça sort le 7 mai, mais j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très engageant.
Autre news Nintendo du moment, quand même la sortie dans les magasins de la DSi XL qui va pas tarder, je crois, ou qui est arrivée.
Ouais,
en tout cas, moi je l'ai pris, je l'ai eu en main, j'ai pu y jouer et tout ça. Alors voilà, c'est assez marrant d'avoir cet objet là où d'un côté on se dit bel objet, l'écran est grand, c'est vrai que ils le vendent comme non pas la DS pour vieux, hein, que c'est un peu le discours que nous on avait eu déjà ici, mais comme la première console portable de salon. C'est un peu comme les ordinateurs portables 19 pouces, c'est-à-dire c'est un ordinateur portable mais que tu laisses chez toi parce que tu veux pas le mettre dans transportable. Donc c'est vrai que c'est un bel objet, il y a rien à dire, l'écran est grand pour jouer, c'est hyper agréable, il est bien lumineux,
vraiment il est plus
rien à dire là-dessus, sauf que c'est plus cher, sauf que il y a aucun intérêt pour un possesseur de DS.
Ouais, c'est plus un premier achat qu'un renouvellement, quoi. Ouais.
Voilà. Alors maintenant, il faut savoir qui fait son premier achat de DS. En tout cas, parmi les gens qui ont envie d'avoir une DS, je pense qu'ils ont eu largement le temps. Alors après, il y aura peut-être cette appli des 100 livres, donc l'appli e-book qui sera peut-être plus lisible sur ce type d'écran, évidemment, parce que c'est un peu plus grand. Mais voilà. C'est bizarre parce que moi, je l'ai eu. Ça deviendra peut-être ma plateforme de test de jeux DS. Parce qu'elle est vachement agréable. Après 30€ de plus et
le temps passe.
Va mourir Clément, hein, en toute amitié, va mourir. Voilà. Et donc DSi XL, pas grand intérêt. Et puis surtout quand il y a des grosses rumeurs de DSi 2 qui traînent
pour cette année. Ouais.
Voilà.
Agent Norman Jaden, FBI.
Namely, my name's Scott Shelby. I'm a private detective. Well, I'm investigating the case of the Oregon killer.
I'd like a room.
Manson Page, 27, single.
Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket.
Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminal. I want every cop in the city on his ass.
Heavy Rain sur la PlayStation 3. On en parle depuis longtemps déjà. Voilà, on a enfin pu y jouer. Heureusement que le bug de la PS3 ça a pas duré trop longtemps. Autrement, j'aurais bien été dans la merde pour cette émission. Voilà, donc le titre de Quantic Dream, le titre français. Voilà. Une des plus grosses productions de jeux vidéo en France, peut-être à part chez Ubisoft, mais en tout cas d'un studio indépendant. Le polar, celui qu'on a qualifié de film interactif parce qu'on savait pas trop, enfin voilà, c'est arrivé. Allez, fais-nous une première présentation, Patrick. je te sens chaud bouillant.
Bah oui, moi c'est un jeu que je suis depuis quelques temps. Voilà, moi je l'ai noté pour Eurogamer.fr, je lui ai mis 9/10. C'est un jeu que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jeu. On resitue un petit peu le contexte. On est dans un jeu entre le jeu d'aventure et le film interactif. C'est difficile vraiment de le situer. On est sur un scénario avec un tueur qu'on appelle le tueur aux origami qui tue des enfants. On va essayer de pas trop dévoiler le scénario. On suit 4 personnages différents qui sont de très
proches. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'émission, on vous donne le tueur.
Hein. On va éviter d'en dire
non,
trop.
Je déconne.
Voilà, on a un scénario très policier, assez glauque, assez sombre.
C'est du thriller hollywoodien.
À la Seven, il y a beaucoup de références aux certains films comme Seven.
En fait, il faut rappeler qu'on suit 4 personnages.
4 personnages différents.
Il y a un père de famille, il y a un détective privé, un enquêteur du FBI.
Et une journaliste qui suit l'affaire. Et on les contrôle à tour de rôle au cours des différents chapitres. Et on avance comme ça dans l'aventure. L'interface du jeu est très très particulière. On dirige les personnages et on interagit avec son environnement via des mouvements qu'on réalise à la manette. En gros, on dirige son personnage avec le stick gauche, hein, en appuyant sur un bouton en même temps, et avec le stick droit.
Alors on le fait marcher avec une gâchette déjà.
Avec une gâchette.
C'était un choix de gameplay assez étrange en tout cas au départ.
Qui fonctionne plutôt bien. Et le stick droit permet de faire des mouvements qui sont demandés à l'écran pour enclencher des actions. Il y a aussi des mouvements directement de la manette via le système 6 axis pour enclencher des actions.
Voilà. Et en fait, l'intérêt de ce type de choses, c'est que c'est à chaque fois, enfin pas à chaque fois, parce qu'on peut faire les petites choses du quotidien comme préparer une omelette et ce genre de passage. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait un mouvement, et ben voilà, c'est pas une cinématique, mais c'est un mouvement généralement fait en motion capture, donc à des mouvements de vrais acteurs. C'est un mouvement qu'un personnage de jeu vidéo, à chaque fois qu'on, généralement dans le jeu vidéo, c'est appuyer sur A, bah on prend un flingue, puis on interagit avec un objet. Là, on a des mouvements très très spéciaux.
On mime souvent. Il y a ce côté mimétisme un peu des actions du jeu.
Grâce à la manette de la PS3
qui reconnaît
les mouvements dans l'espace.
Et ce qui contribue, à mon avis, au côté très immersif du jeu. Moi, c'est ce qui fait que j'ai vraiment plongé dans le jeu. C'est vrai que lorsque j'avais vu les premières vidéos à l'E3, je me rappelle, il y a 2-3 ans maintenant, on avait vu les premières scènes de gameplay, etc. J'étais assez dubitatif. Moi, j'avais peur du côté un peu QTE à longueur de temps, avec un jeu par rapport auquel on resterait assez extérieur. Mm-hmm. Et moi, c'est lorsque j'ai commencé à toucher la preview il y a quelques temps, on avait juste, je crois, 11 niveaux, 11 scènes, où là, j'ai pris le jeu en main et je suis vraiment rentré dans le scénario. Mais vraiment. Via, et je pense que c'est ce côté interaction avec la manette, le fait de mimer des gestes, etc., a beaucoup contribué à ce, dans mon expérience à moi, sur le fait de rentrer directement dans l'action et de vraiment participer au scénario. Et moi, ce que j'ai trouvé très fort, et on va revenir là, sur le sujet, parce que c'est le sujet d'Heavy Rain, c'est d'avoir réussi à la fois à marier des techniques qui viennent du cinéma, de en termes de réalisation, de mise en scène.
Et aussi parce que le cinéma aussi, parce que parfois on ne participe pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup du jeu où on regarde.
Et donc, de cette fusion entre les méthodes cinématographiques et le jeu vidéo. Alors, on sait que c'est très dangereux, le jeu vidéo et le cinéma, ça fait des années qu'ils se courent après, qu'il y a des mariages qui finissent souvent, qui se finissent souvent mal. Et j'ai envie de dire que là, c'est la première fois qu'il y a un jeu qui arrive à proposer une expérience qui fonctionne à la fois dans le rendu cinématographique et dans l'expérience de jeu qui est très immersive.
Allez, Clément, vas-y.
Alors vas-y.
Allez. Vas-y.
Allez Clément, fais-toi plaisir.
Non, j'aimais ce jeu-là quand même. Hein, donc voilà. Juste pour moi, je vais rebondir sur ce que dit Patrick. Je suis d'accord avec lui sur la majorité de ses dires. Si ce n'est que pour moi, beaucoup de gens oublient Blade Runner, sorti en 97, fin 97, qui pour moi était le premier jeu qui justement était qu'on pouvait qualifier de pas de gameplay parce qu'effectivement on suivait plus une aventure, un scénario et qui faisait écho au film en plus excellent. Et moi, Blade Runner, je le conseille moins parce qu'il a quand même 13 ans maintenant.
Il a un peu vieilli.
Mais quel est le rapport avec Heavy Rain ? Je vois pas
trop. C'est-à-dire, le rapport, c'est que le scénario et l'aventure sont le cœur du jeu. Il y a beaucoup moins de gameplay. C'est la critique qu'on peut faire à Heavy Rain que certains font. Que je vais pas faire comme ça, moi, à Viren, la critique du qu'on ne joue pas, qu'on ne fait qu'interagir.
Ah, ça dépend du point de vue.
C'est une critique, effectivement, qui peut se justifier, qui est, dans ce jeu-là, on interagit, mais on ne joue pas. Et c'est une critique qu'on pouvait faire aussi à Blade Runner, en son temps. Donc voilà. Ouais, alors après, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais expliquer, moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Ce qui m'a plu, c'est vrai qu'on est dans, j'ai été assez surpris, ça marche. Il faut dire les choses, ça marche. On est immergé, quand même dans le scénario et le jeu. Moi, ce que j'ai aimé au départ, donc il y a pas de spoil, hein, c'est toute petite scène au début où on joue avec ses deux enfants et à un moment on se bat, on prend une épée et on joue avec son enfant à l'épée.
Ah, c'est tout début ça.
Tout début. Et donc quand on se bat à l'épée, on a des QTE, c'est-à-dire qu'il faut dans un certain ordre, il faut qu'on presse les boutons de la manette.
Et là t'as pas réussi dès le début.
Alors au début, moi justement, j'étais dans un truc très jeu vidéo, j'appuyais hop et en fait je rétamais mon fils. Et en fait, ce qui est marrant, et ça j'ai trouvé ça très intéressant dans le jeu. C'est que j'ai fait exprès de perdre ces phases de QTE pour laisser mon fils me frapper et même à la fin gagner et voilà, j'ai fait semblant de mourir. Et ça, j'ai trouvé
ça c'est intéressant.
Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est-à-dire que ça m'a sorti du gameplay d'un jeu classique. Là, j'ai trouvé vraiment l'espèce d'émotion où on fait exprès
et c'est ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on perd quelque part tous nos repères de gamer où on est habitué à avoir une session de jeu, on va avoir des game over qui vont apparaître, quand on arrive à un game over, on revient en arrière, on refait une tentative.
Maintenant, je viens critiquer. maintenant que je dis les côtés positifs.
Pour finir sur l'histoire du game over qui a disparu, pour moi, je pense que c'est vraiment un élément important parce que ça a contribué, en ce qui me concerne, à une sorte de responsabilisation par rapport au scénario. C'est-à-dire, je loupe un QTE, un test, je loupe une scène où je la fais pas bien comme il a peut-être fallu la faire. On a la sensation que le scénario va continuer ce qui se passe.
Le scénario continue, se déroule
irrémédiablement malgré le fait qu'on ait loupé.
Il n'y a pas de retour en arrière d'un des premiers combats parce qu'il y a des scènes. Alors il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les scènes scènes de départ du jeu qui sont des scènes très lentes. C'est moi quand, après qui c'est un peu critiquable. C'est
mais
justifié.
C'est bien aussi, mais c'est rare aujourd'hui des scènes lentes ou des silences en jeu vidéo.
Mais c'est rare. C'est chier au début quand même.
C'est un luxe.
Le problème c'est que c'est intéressant. Ça peut être intéressant de faire un jeu vidéo qui commence lentement. Why not, hein. Moi j'ai pas de religion là-dessus. Sauf que là on sent très très bien que c'est de la posture. C'est voilà, je veux vous montrer que je peux faire qu'on peut faire un jeu vidéo un peu qui ressemble pas aux autres, donc je vais commencer lentement et tout ça. Moi j'ai eu un peu de mal quand même avec ce début.
C'est quoi sur les premières scènes
vraiment le tout début quand on est à l'étage, on va pisser, on va prendre sa douche, on va se brosser les dents.
Il ne se lave pas les mains après être à la toilette.
Voilà, c'est mal. Donc
non mais c'est vrai en plus. Hein. Moi ça m'a
choqué. Non mais c'est et en fait donc très vite il y a de l'action quand même. Il y a du combat. Je me suis fait détruire la gueule dans le premier combat, hein, parce que sans rentrer dans les méandres du scénario, mais voilà, ça a continué. C'était pas un problème. Et c'est vrai que on a une perception différente du jeu.
Il y a une tension. Je trouve que ça crée une tension, le fait de se dire bon bah voilà.
Ça crée une tension d'un autre côté, et ça met le joueur dans une position assez différente de sa position habituelle. C'est-à-dire qu'on contrôle quand même un personnage, c'est-à-dire on contrôle un des quatre, hein,
un des quatre protagonistes. Ouais.
Sauf que en fait, on se retrouve dans la peau presque, alors à mi-chemin entre l'identification au personnage qu'on contrôle, hein, évidemment tout dans le jeu vidéo, et le côté réel, hein, parce que finalement que le personnage échoue ou réussisse son action, ça continue. Donc on est plus à se dire, tiens, comme tu parlais du combat avec le gamin, est-ce que c'est bien ou est-ce que on va le faire comme ça? Parce que des fois on peut vouloir se planter parce que on trouve que ça a un côté plus dramatique de pas faire à manger à son gamin et de le laisser devant la télé parce qu'on veut jouer, on veut le mec déprimé, et tout ça. Donc on peut faire ce rôle là et donc on est à chaque fois à mi-chemin entre le personnage et la caméra. En fait c'est assez bizarre de placer le joueur dans cette position là. Ouais.
Moi je trouve ça assez intéressant. En fait, pour aimer ce jeu là il faut accepter quand même le postulat. On s'est porté par l'histoire, on tente de l'influer, mais c'est vrai qu'on ne joue pas l'histoire, mais ça reste quand même très intéressant. C'est pour moi, on se fait porter par l'histoire, on l'influe par moment, effectivement, avec nos choix. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, à plusieurs niveaux, c'est, effectivement, pour qu'un jeu comme ça prenne, il faut qu'il soit techniquement presque irréprochable, et il y réussit, c'est-à-dire qu'il crée des atmosphères, il y a vraiment une ambiance qui rappelle le cinéma, les zones de jeu sont assez petites avec beaucoup d'ambiance. Après moi j'ai trouvé parfois des erreurs techniques qui pour moi me faisaient sortir un peu du jeu. Donc si les visages par exemple sont extrêmement bien faits, si les voix sont extrêmement bien doublées, par moments, notamment au tout début quand il embrasse sa femme, ça passe pas.
Ah ouais, mais c'est un des détails, c'est quand on cherche, c'est très connu dans le jeu vidéo et dans la 3D depuis très longtemps, c'est plus on s'approche du photoréalisme, plus la moindre erreur, la moindre imperfection choque.
Oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas le cœur du jeu, enfin, tu vois,
Il veut pas passer des émotions quand même.
C'est pas quelque chose qui a vraiment, je
pense que là il pouvait
sur mon expérience, quoi.
C'est un détail, mais il pouvait justement ne pas faire un zoom si proche, faire un zoom un peu plus éloigné, l'émotion serait passée, quoi.
Mais c'est vrai que c'est un des challenges des années à venir dans le jeu vidéo, c'est de se débrouiller avec ce problème du moment où on ne croit plus au photoréalisme. Et c'est vrai que ça atteint quelques fois, enfin par exemple quand les personnages montent des escaliers dans Heavy Rain, il y a un souci, c'est tu n'as pas un balai dans le cul quand tu montes les escaliers, ce qui est le cas dans Heavy Rain.
Les animations quand on marche sont assez mal faites.
C'est pas franchement, alors moi pour moi ça m'a pas du tout gâché mon expérience. Alors personnellement j'ai été assez étonné parce que j'étais le premier à critiquer très très sévèrement Fahrenheit, que je n'avais pas vraiment aimé du tout
au niveau du scénario.
J'étais un peu pas à reculons, mais j'étais très très curieux de cet Heavy Rain, un peu suspicieux au départ, et franchement.
Mais comme tout le monde, je crois que tout le monde avait une crainte sur, parce que c'est un peu un nouveau genre de jeu quelque part.
Mais franchement, ça a été une très 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 bonne surprise. Voilà, c'est un jeu réussi. Je pourrais presque dire, j'ai rien d'autre à dire, c'est réussi. le contrat de départ, qui est donc cette production très hollywoodienne, thriller hollywoodien, c'est rempli. Les quatre personnages, c'est rempli.
Même si l'aventure, c'est rempli. Même si c'est beaucoup de clichés quand même.
Il y a des clichés, certes, mais il y a aussi, moi, c'est ce que on en parlait tout à l'heure, je trouve qu'il y a des moments de silence, il y a des gestes qu'on fait dans le jeu qui n'ont pas forcément une utilité. On peut choisir la posture d'un personnage lorsqu'on dialogue avec un autre.
Bien sûr, ouais. Alors,
vous allez me dire ça sert à rien dans le jeu, mais ça fait partie de ces choix qu'on laisse aux joueurs et qui sont pas forcément qu'on n'a pas dans tous les jeux. Et je trouve qu'il y a voilà, il y a ces espèces de moments de...
Non, mais il y a des moments, il y a des choix qui sont donnés. C'est... Alors après, effectivement, c'est pas forcément le meilleur scénario de film qu'on ait vu.
Oui, c'est pas
et je pense qu'on est plus tolérant parce que effectivement, parce on n'a jamais eu de scénario de cet ordre-là ou très rarement dans le jeu vidéo, cet univers polar moderne.
Mais j'ai trouvé qu'il était quand même très bien construit.
Il est très bien construit.
Il
est très bien construit. Voilà, moi, il y a pas de défaut. Et franchement, c'est vraiment une réussite. Voilà, mais on va continuer.
Moi, je serais pas autant, voilà. Mais bon, voilà, je partage pas en fait votre enthousiasme à ce point-là. Moi, j'ai aimé, mais c'est pas non plus la révolution que j'attendais.
Eh ben, on en parlera tout à l'heure. On va accueillir maintenant Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Arwan. J'ai cru remarquer derrière votre apparence massive, derrière ce regard dur que vous avez, derrière ce ton solide et impertinent que vous employez, j'ai décelé un fond de poète en vous. Et c'est pour cette raison que je vais vous parler cette semaine d'un jeu nommé Cyrano, signé Angèle et Ludovic Maublanc. Oui, un jeu fait en couple. Et ce jeu, mon cher Arwan, va faire apparaître au monde la poésie qui sommeille dans votre regard. Cyrano est un jeu pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans, édité par les Belges de Repos Productions. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité des éditeurs, ils savent que Repos Productions est plutôt habitué à des jeux dits grand public, des jeux dits d'ambiance, des party games, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Eh bien, Cyrano n'échappe pas à cette règle. Cyrano est un jeu qui est fait pour s'amuser et se poêler autour d'une table avec des amis qui ne se prennent pas au sérieux. Le but du jeu est simple, mon cher Arwan. Vous avez une feuille de score avec Roxane sur un balcon et Cyrano en bas en train de lui chanter la sérénade. Il va falloir faire grimper à l'échelle Cyrano. Il va falloir faire descendre Roxane de cette échelle pour qu'ils se rejoignent et puissent faire un petit bisou sur la bouche. Et pour ce, vous allez devoir écrire un poème en même temps que vos camarades. Le jeu est composé de cartes et d'un support de cartes. Vous allez retourner 3 cartes. La première carte va vous indiquer un thème et les 2 autres cartes vont vous indiquer des fins de mots, des ouilles, des halles, des et, des hulles, des on, des i, des et. Et vous allez devoir écrire un petit poème de 4 vers, tout simple. Peu importe la qualité de votre poème, ce qu'il faudra, c'est terminer avec des mots qui ne sont pas employés par vos adversaires. Car si vos mots sont originaux, les terminaisons de vos vers sont originaux, vous marquez des points. Si quelqu'un a exactement le même mot que vous, vous ne marquez pas de points. Rajoutez là-dessus qu'après lecture des poèmes, il y a un petit vote et qu'il va falloir essayer d'être dans la majorité, c'est-à-dire de voter pour la personne qui va avoir le plus de votes et comme ça vous allez marquer des points supplémentaires, ce qui va faire descendre Roxane. Et si vous avez voté pour quelqu'un qui a très peu de votes pour lui, vous allez marquer 0. Alors là, mon cher Arwan vous dit tout de suite, oui, mais moi je suis très mauvais en poésie, je suis très mauvais en français. Je vous assure, peu importe, quelles que soient vos qualités littéraires, vous allez vous en sortir. Moi-même, je suis très 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 mauvais et pourtant ça ne m'empêche pas d'écrire des bêtises quand je fais mes poèmes. Voilà, mon cher Arwan, je vous rappelle, il s'agit de Cyrano, un jeu signé Ludovic et Angèle Maublanc, édité par Repos Productions, un jeu pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans. Les durées des parties sont autour de 30 minutes, un jeu qui coûte 30 euros pour des heures de rigolade et de poilade. Voilà, mon cher Erwan, à la semaine prochaine.
Ouais, on imagine bien les vers qui finissent en hule, hein. Oui, j'affabule, tout ça. Enfin bon, bref. Cyrano, merci Monsieur Fall de TrickTrack.net, à la semaine prochaine. Et puis là, en fait, pour continuer à parler des virines, j'ai piqué un bout d'interview à nos collègues, à nos confrères de jeuxvideo.fr, c'est David Cage qui parle.
Mais quand je vois les progrès limités qu'a fait cette industrie dans ce sens ces 15 dernières années, je ne te cache pas que je suis moyennement optimiste. Je trouve que les progrès sont très lents, très très lents. Je trouve que les gens qui ont du talent continuent de faire du cinéma, je comprends pourquoi, mais ils peinent à s'intéresser aux jeux vidéo. Je trouve que les gens qui font du jeu vidéo, pour beaucoup, sont contents de faire ce qu'ils font, comme ils le font. Donc ils voient pas pourquoi faudrait changer. Ils voient bien qu'il faudrait avoir des plus grandes épées, des plus gros flingues, et puis mettre plus de polygones dans les flingues, ça serait cool, et voir plus d'explosions. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de gens que ça dans notre industrie qui aient envie, simplement envie, de se dire tiens, il est possible de faire autre chose.
Merci David Cage. Alors voilà, ça c'est sur le discours autour de Heavy Rain. Les gens qui ont du talent continuent à faire du cinéma et je comprends pourquoi. Eh ben qu'ils y restent hein, aussi. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est tout le souci, c'est le discours qui allait avec Heavy Rain. C'est on fait évoluer le jeu vidéo. Le jeu vidéo arrive à une nouvelle dimension. Sauf que, bah, finalement, Heavy Rain, c'est avant tout un nouveau genre, ou en tout cas une évolution du genre jeu d'aventure, parce que et en fait, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas pour ma part, c'est que c'est un produit hybride en fait entre le jeu vidéo et le cinéma,
qui est très intéressant,
qui fonctionne, ouais, qui
en termes de structure narrative.
Ouais, Patrick,
c'est ça qui est très intéressant avec Heavy Rain. C'est une nouveauté en termes de construction narrative, de façon de raconter des histoires,
de mettre en scène aussi.
Ouais.
On a vraiment
un rapport à l'histoire avec ce jeu qui est où on a un rapport avec le cinéma, avec la cinématique, avec tout ça imbriqué avec un gameplay qui fait qu'on a un rapport.
Mais pour moi, c'est
différent.
À aucun moment j'ai senti de révolution dans le jeu vidéo. Je me suis dit ah tiens, on est au milieu. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on vit un truc qu'on n'a jamais vécu, parce que ce qui est chaque scène, il y a 60 scènes à peu près de jeu. C'est pratiquement dans un endroit différent avec des personnages différents. Les dialogues ne se ressemblent jamais. Donc il y a une vraie évolution et qui ressemble à pas grand chose de ce que j'avais joué avant. Mais voilà, on n'est pas
peut-être d'ailleurs que si succès il y a de Heavy Rain, et j'espère que le jeu va marcher, peut-être qu'on va voir l'émergence, d'un genre
ce sera des Heavy Rain-like. Ce sera pas
le film interactif.
Ce sera des Heavy Rain-like, ce sera pas le jeu vidéo. Si moi je peux juste rebondir sans être trop méchant envers ce monsieur, sur ce qu'il a dit au départ, le discours qu'il a tenu dans l'extrait d'interview qu'on voit, c'est un discours quand même, moi j'ai du mal à adhérer totalement, parce que c'est que en plus le jeu vidéo, on l'a vu, on le sait, ça son discours marche peut-être, on va dire, pour le grand public la presse grand public qui connaît pas du tout le jeu vidéo, mais quand on a joué au jeu vidéo, on a vu des jeux comme Flower, on a vu des jeux comme Ico, on a vu des jeux comme Shadow of the Colossus.
Mais même les jeux dont qu'on parle comme référence un peu du jeu. Parlons de Mass Effect 2, je suis désolé. N'importe quel jeu, même s'il y a des combats, même s'il y a des choses comme ça, il y a quand même une dimension supplémentaire. Je trouve ça un dédain absolument dingue pour le jeu vidéo. Franchement, c'est le discours, non pas d'un créateur de jeux vidéo, c'est le discours, je suis méchant, mais presque d'un cinéaste raté qui a voulu se reconvertir dans le jeu vidéo. C'est quelqu'un qui n'est pas de l'industrie.
En même temps, le format que crée quelque part Heavy Rain, c'est pas du cinéma. Tu pourrais pas l'adapter
au
cinéma.
Mais bien sûr. Et c'est pour ça que
c'est difficile de l'associer vraiment, tu vois, à un cinéaste, parce que on est sur un format hybride. On est sur un format.
Attention, il a des cinéastes ratés.
Non, mais je voulais être méchant parce que je me suis senti presque attaqué, parce que ça fait quand même des années qu'on fait ce boulot-là, et comme quoi on aurait chroniqué une espèce de sous-culture pourrave. C'est pas vrai, le jeu vidéo existe et a un intérêt.
Heavy Rain est intéressant et a un intérêt aussi, mais c'est pas le jeu vidéo ne doit pas être que ça. C'est comme tu l'as très bien dit, pour moi c'est un genre.
On aura toujours des FPS, on aura toujours des jeux stratégiques.
Il me fait penser à mes parents qui disaient quand j'étais plus jeune, ouais, c'est toujours boum boum pam pam, c'est pourri le jeu vidéo, voilà. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire ça. Enfin, justement, je trouve qu'il fait du mal. Il fait du mal d'un côté à l'industrie avec son moi-jeu. J'invente le truc. J'invente ce que doit être le jeu vidéo et j'invente ce que doit être une histoire. Je suis désolé. Les histoires, elles ont existé depuis hyper longtemps dans le jeu vidéo et parfois même mieux racontées que ça.
Et juste, voilà, Heavy Rain est un cas à part. C'est un bon jeu et j'en ai dit du bien. Je continuerai à dire du bien parce que c'est un vrai bon jeu. Sauf que voilà, on est dans un film à moitié et donc en fait, on est aussi enfermé dans une structure narrative assez claustrophobique des fois, parce qu'on ne peut pas sortir dans la rue.
J'ai envie de dire que c'est le genre qui veut ça. Tu peux pas avoir un monde ouvert sur un jeu comme Heavy Rain. Je pense que ça marcherait pas.
Pour une comparaison, il y a un passage qu'on sent très bien, qui est un passage fort du jeu. On a un flingue dans la main et on doit décider si on tue quelqu'un ou pas, et on sent très bien que le joueur doit ressentir de l'émotion. Je suis désolé, à l'époque où je jouais Nico Bellic dans GTA 4, j'ai eu plus ce sentiment-là de contrainte, de tirer sur quelqu'un, de sang-froid. Ça m'a fait plus de choses dans GTA 4, peut-être parce que j'avais cette liberté, peut-être parce que j'avais cette identification au personnage. Ça m'a fait plus de choses dans GTA 4 que dans Heavy Rain, qui était censé construire cette émotion ce feeling.
J'ai trouvé très forte aussi dans Heavy Rain cette scène. Je me suis senti mal à l'aise au moment d'appuyer sur la gâchette
C'est vrai que je trouve qu'il y a un côté de dédain, et il y a un côté, il est en train de dire qu'il veut que le jeu vidéo vidéo, il parle beaucoup de l'intelligentsia, comme quoi l'intelligentsia ne reconnaîtrait pas le jeu vidéo à sa juste valeur. Enfin bon, jusqu'ici, Cage en souffre beaucoup, a priori. Et il pense qu'avec des trucs comme Heavy Rain, comme des choses qui se rapprochent plus du cinéma, le jeu vidéo sera plus accepté. D'une part, on peut s'interroger, et d'autre part, je trouve qu'il fait beaucoup plus de mal, parce que comment est-ce qu'on va expliquer aux gens que Okami existe? Comment on va expliquer aux gens que Mass Effect 2 est quand même un jeu quand même complètement dingue au niveau du scénario, au niveau de l'ampleur de l'histoire, etc. Et je trouve que c'est tout ce discours-là. On voit aussi, il y a eu une polémique que je vous conseille de lire, enfin un échange musclé sur le blog d'Eric Viennot entre Mathieu Kassovitz, donc le réalisateur, et Eric Viennot, et qui est très intéressant, parce qu'on a un cinéma qui est fan de Heavy Rain, Mathieu Kassovitz, qui se dit ah tiens, je vais pouvoir faire un jeu vidéo, je vais pouvoir faire le Citizen Kane du jeu vidéo, peut-être pas moi mais quelqu'un d'autre, et Eric Viennot qui dit bah ouais, mais il n'y a pas qu'une seule manière de raconter une histoire, la manière d'Heavy Rain existe et c'est bien et c'est une nouvelle manière et c'est intéressant, mais quand même quoi, il y a d'autres façons, il y a d'autres façons peut-être plus interactives et en restant dans l'univers du jeu vidéo, en s'éloignant du cinéma, c'est peut-être comme ça qu'on va découvrir des choses.
Ah oui, non, moi je plus sois totalement, et pour en remettre une couche sur BioShock 1, pour moi, je comprends ceux qui n'avaient pas aimé en termes de FPS. Pour moi, BioShock 1, avant tout, tel que moi je l'ai ressenti, c'était une histoire. C'était une histoire qui était portée par un gameplay qui était un gameplay type FPS. Et donc les histoires, on peut la raconter aussi comme ça. Voilà.
On peut s'éloigner du cinéma. Voilà, c'est autre chose. En tout cas, voilà, on en a fini avec Heavy Rain. Je pense qu'on n'aura pas fini de parler de ce grand débat. Voilà, peut-être une autre fois, peut-être dans une autre émission. On en a fini donc avec les jeux vidéo. Et la question rituelle, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Alors moi, je vais vous parler de bouquins. Alors, premièrement, je vais parler de Books, qui en fait n'est pas un bouquin, qui est une revue bimensuelle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est un peu comme le courrier international des bouquins. On suit l'actualité par les livres du monde, et je trouve ça très intéressant en termes de...
C'est nouveau ou pas?
C'est pas nouveau, mais ça a une petite année, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, dans les bouquins, moi, là, je découvre Catch 22, donc Catch 22, en fait, de Joseph Heller. Et c'est assez hallucinant. Je le découvre à peine, je suis en train de le lire. Rapidement, c'est l'histoire donc, de l'article 22, qui est une sorte d'attrape-nigo qui permet à un colonel américain d'imposer un nombre de missions à son escadrille de bombardiers dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est assez hallucinant, c'est burlesque, c'est dramatique. Enfin, c'est vraiment une œuvre apparemment culte. Hein, donc, je la découvre pas. Hein, je répète, mais c'est pas moi qui la découvre, mais je la découvre personnellement. Donc, et je la conseille à tout le monde. Donc, c'est Catch 22 okay. de Joseph Heller.
Patrick,
moi, je suis allé voir Shutter Island de. Donc de Scorsese cette semaine, et j'ai beaucoup aimé.
Ah, c'est vrai, j'ai entendu dire que c'est pas que du bien.
J'ai vu qu'il y avait des critiques contrastées, mais j'ai beaucoup aimé.
T'avais lu le livre avant ou pas?
Non, j'ai découvert vraiment l'histoire.
Le livre aussi, ouais.
J'ai un petit peu peur de voir ce film.
J'ai trouvé que c'était super bien réalisé. D'accord. Et que les acteurs étaient vraiment top.
Alors voilà. Moi j'ai découvert Chou, c'est un comic, c'est chez Image, c'est pas encore traduit en français. Chou, c'est l'histoire d'un policier, alors aux États-Unis, il y a eu la grippe aviaire, et donc il y a une prohibition sur le poulet. Voilà, et donc c'est une enquête, on suit ce policier qui est cibopathique. Alors cibopathique, c'est quoi? C'est quand il mange quelque chose, eh bien il vit ce qu'a vécu son aliment, c'est-à-dire s'il mange une tranche de bœuf, il revoit la vie de la vache jusqu'à l'abattoir.
Ah, c'est cool.
Sauf pour les betteraves, donc il mange beaucoup de betteraves parce que comme ça il peut manger en silence. C'est de John Lehman, scénarisé, et Rob Guillory. Non, c'est très très bon, c'est ambiance polar, et c'est franchement très très bien dessiné. Il y a un tome de paru pour l'instant, et c'est une très très bonne surprise. Ça s'appelle Chew, c'est H-E-W.
Le pitch est flippant quand même, hein,
ouais, mais franchement c'est très très bon. Bah voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.